cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeotard le 2 mars 1988.
Vous disiez hier en terminant qu'il fallait bien comprendre ces deux aspects, la disposition et l'habitus. La disposition étant quelque chose de naturel, ce sont des qualités naturelles qui, de fait, demeurent dans un état souvent imparfait. Elles sont plus du côté du corps, de la sensibilité, du côté affectif, sensible. On parlera beaucoup moins de disposition, l'imagination, la mémoire. On retrouvera ça du côté artistique. Une sorte de virtuosité naturelle. Alors ça peut se développer. Mais ça demeure imparfait en ce sens que les dispositions se prennent du côté de la matière, comme dit saint Thomas. Tandis que l'habitus se prend du côté des principes. C'est pour ça que les habitus sont stables et les dispositions sont changeante. Les dispositions de celui qui a 15 ans, celui qui a 25 ans, celui qui a 40 ans ne sont pas les mêmes. C'est normal, le corps évolue, change. Tandis que les habitudes demeurent. Vous n'allez pas dire qu'il y a un habitus mathématique pour quelqu'un qui a 15 ans et un habitus mathématique pour celui qui a 40 ans. L'habitus grandit, c'est le propre de l'habitus, il implique du plus et du moins. La croissance de l'habitus, c'est une chose très importante à bien regarder, la croissance de l'habitus, c'est l'enracinement d'habitus dans toutes les virtualités de la puissance. Un habitus grandit dans la mesure où il mobilise toutes nos virtualités en les orientant vers un point de vue unique. Les dispositions, elles peuvent acquérir une souplesse plus grande par l'exercice, la virtuosité. La souplesse du corps par l'exercice, ce n'est pas un habitus. Quand vous faites de la gymnastique, vous acquérez une souplesse plus grande. Ce n'est pas un habitus, c'est du côté de la disposition. C'est du côté du corps, je veux dire, c'est une disposition qui est peut-être plus ou moins grande. Donc vous voyez, c'est la phrase classique que saint Thomas prend, l'habitus difficile mobilis, tandis que les dispositions sont mobiles. L'habitus est quelque chose de net, il a une stabilité. L'habitus nous donne une stabilité, et c'est en ce sens-là que c'est une qualité qui détermine. Vous voyez, il y a des personnes qui sont toujours flottantes quant à leur intelligence pratique ou spéculative. Elles sont flottantes, il n'y a pas d'arrête. L'habitus donne des arrêtes, des déterminations, mais des déterminations qui ne sont pas a priori. Ce ne sont pas des a priori, des habitus. Les a priori seraient du côté des dispositions. Quelqu'un de trop arrêté, c'est en fonction de ses dispositions. Un peu têtu. Oui, ça peut arriver. Il a des a priori. Des a priori politiques. Des a priori affectifs. Tandis que l'habitus se prenant du côté des principes, du côté de l'objet ou du côté de la fin, donne des déterminations extrêmement nettes, et à ce point de vue-là, l'habitus stabilise, mais demeure souple. C'est pour ça que c'est pas commode à bien préciser ces choses-là, hein, mais ça se sent tout de suite, parce que l'habitus, c'est une survie. C'est quelque chose qui vient apporter une qualité nouvelle, comme nous allons voir, à nos pouvoirs. Donc, qualité, habitus, disposition. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les pouvoirs. La dunamis, le pouvoir. Le pouvoir se prend du côté du vivant. Et les dispositions du côté du corps. Le pouvoir se prend du côté des vivants. Nous avons ce qu'on a appelé d'une façon classique les facultés. Aujourd'hui, il faut mieux dire pouvoir. Ça, du reste, ça traduit dunamis. Vous avez, à partir de toute opération vitale, en philosophie de la vie, vous posez une capacité nouvelle, une capacité d'opérer. La vision. Vous pouvez voir ou ne pas voir. Ce qui montre bien qu'il y a en vous une capacité de passer à l'acte. Et cette capacité de passer à l'acte, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Le mot n'est pas très bon, je sais bien. C'est très difficile de voir comment on peut traduire dunamis. Parce que faculté, ça ne va pas. On a tellement critiqué les facultés des scolastiques que je crois qu'il ne faut pas employer le mot faculté. Mais il faut bien voir comment on les pose, hein. Ce n'est pas une intuition. C'est presque une induction, poser une faculté. Je pars de l'exercice, par exemple, de voir ou de ne pas voir. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je vois. Je regarde à droite, je regarde à gauche. On voit l'exercice. Alors, cet exercice présuppose qu'il y ait en moi quelque chose qui me permet, les conditions étant requises, de passer de la puissance à l'acte. Et le passage de la puissance à l'acte, c'est justement quelque chose qui se fait à partir de mes pouvoirs. J'écoute. Au contraire, j'essaie de ne rien entendre. Ou je me bouge les oreilles. Se boucher les oreilles, c'est fermer les yeux. Analogiquement. Passer son nez pour ne rien sentir. Ça sent tellement fort que je pince le nez pour passer rapidement et ne pas me laisser prendre. Oui, c'est très cru, j'ai le pouvoir d'exercer ou de ne pas exercer. J'ai un pouvoir à l'égard de mes passions. Mais c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas mettre la main sur vos passions. Allez, tais-toi. Quand vous sentez une colère monter en vous, parce que ça se sent, ça. Vous pouvez la laisser monter en vous. C'est quelquefois bon. C'est quelquefois bon de se mettre en colère. Quelqu'un qui ne se met jamais en colère, il lui manque quelque chose. Hein. Il faut se mettre en colère à bon escient. Ou vous vous laissez prendre par la passion, amour. Mais il y a un devenir dans les passions. Et on peut être suffisamment conscient pour voir qu'on laisse la passion grandir. La passion de désir, la passion d'audace, celui qui fait une course en montagne. Point de départ, l'audace n'est pas très grande, mais progressivement, l'audace augmente. Ce qui fait que quelquefois, quand il est au sommet, l'audace ira trop loin. Ça grandit les passions. Et on peut avoir conscience de cela, la montée. Il y a un pouvoir qui est présent à nos différentes passions, qu'on appellera l'irascible et le concupiscible. Il y a un pouvoir pour la mémoire, pour l'imagination. Mais je ne peux pas arrêter comme je veux mes imaginations. Il y a des moments où c'est très difficile d'arrêter ses imaginations, entre autres pendant l'oraison. Et quand vous arrêtez vos autres occupations, comme la nature, horreur du vide, dès que vous arrêtez votre travail, immédiatement, l'imagination augmente. Le sevrage des informations politiques, pas de journaux. Le sevrage des informations politiques font que chez certains, l'imaginaire augmente. Ils se souviennent des oignons d'Égypte, des 10 journaux qu'ils lisaient tous les matins. Alors, fameux sevrage, rude. Alors, ça fait quelque chose. Alors, l'imaginaire augmente. Or, sur l'imaginaire, vous n'avez pas de pouvoir non plus direct. Vous ne pouvez pas dire à l'imaginaire, tais-toi, mon vieux, ou ma vieille. Pouvez pas dire ça. Vous devez faire des actes positifs pour arrêter l'imaginaire. Si vous ne faites pas d'actes positifs, vous n'arrêtez pas l'imaginaire. C'est pour ça que celui qui dit, ah, l'oraison, ça doit être la passivité, mais la plupart du temps, c'est l'imaginaire. Vous devez combattre l'imaginaire en faisant des actes positifs, volontaires, d'adoration, de foi, d'amour, d'espérance. La nature a horreur du vide. Faut jamais oublier ça. Ce sont des vieux principes qui sont excellents, ça. Mais il y a un pouvoir pour mon imagination, pour ma mémoire. Il y a un pouvoir beaucoup plus grand pour l'intelligence et la volonté. Tout ça, ce sont des qualités. Ce sont des qualités naturelles. Je suis né intelligent. Quelquefois, on ne s'en aperçoit pas, mais ça fait rien. On est tous nés intelligents. On est tous nés avec une capacité de vouloir, une boulicis, un appétit spirituel. On est tous nés avec une capacité de dominer nos diverses activités. Quelquefois, cette volonté ne s'est absolument pas développée en fonction d'une éducation trop douce. On a laissé à l'enfant tous ses caprices. Ah, tu veux ça? Très bien, tu l'auras. Il ne développe pas sa volonté à ce moment-là. Il développe tout simplement son appétit sensible. Il crie, ah, tout de suite, on lui donne un bonbon. Et dans la Saint-Gine, un canton tout près de Fribourg, on donnait quelque chose qui était l'alcool pour le petit gosse pendant ce temps-là, il se taisait avec un sucre. C'est comme ça qu'au bout d'un certain temps, à la place de développer sa volonté, il devenait alcoolique. Donc on développait un appétit sensible. Mais la première éducation développe la volonté, développe l'appétit sens, l'appétit spirituel. On n'en peut rien. Si on n'a pas reçu une éducation un peu virile, l'éducation de Sparte, qui était connue pour ça, former des gens qui sont capables de lutter. On est né pour la lutte. Alors on forme des gens qui luttent. Il a dit, mon petit, si tu ne luttes pas, qu'est-ce que tu viendras dans ta vie? Ce que Peggy dit admirablement, il y a des gens qui sont pour remonter à la source. et des gens qui sont pour descendre le fleuve. La spiritualité de ceux qui descendent le fleuve, ils font comme tout le monde. Ils ne développent pas leur volonté. Les facultés, les puissances qui sont en nous, sont des puissances qui peuvent se développer. C'est naturel, mais ça se développe. C'est très curieux, le développement de l'intelligence, le développement de l'appétit spirituel, la volonté. Et c'est à partir de ces pouvoirs que nous pouvons déterminer quels sont les pouvoirs capables d'être déterminés par des habitus. Et quels sont les pouvoirs qui ne peuvent pas être déterminés par des habitus et qui, en fonction de leurs organes sensibles, ont des dispositions ou n'en ont pas. Alors, grâce à l'exercice, on développe ses dispositions, on peut enlever certains obstacles, mais c'est de l'ordre de la disposition, ça n'ira jamais plus loin. Tandis que l'intelligence est capable d'acquérir des habitus. La volonté est capable d'acquérir des habitus. Si on voulait bien connaître, au point de vue qualité, ce qu'est l'intelligence, nous, ce qu'est la volonté, ce que saint Thomas appelle l'appétit spirituel, la boulessis. Il faudrait comprendre, puisque ce sont des pouvoirs, donc c'est quelque chose qui est capable de passer à l'acte. Vous avez en vous, chacun d'entre nous, à partir en philosophie du vivant, on voit comment la boulessis naît. L'intelligence, le nous, naît de mon âme spirituelle. L'intelligence n'a pas d'organes sensibles. C'est pour ça que l'intelligence ne vieillit pas. C'était la réflexion du Saint-Père, la limite d'âge. Pour un professeur de philosophie, ça n'a pas de sens. Sauf s'il commence à tomber dans un gagatisme. Et c'est pas l'intelligence qui tombe dans un gagatisme. C'est pas l'intelligence, c'est la mémoire. C'est l'imagination. Vous voyez, c'est alcoolique, ça arrive quelquefois, les philosophes, pour éviter le désespoir, c'est la consolation du philosophe, hein, la bonne bouteille. Alors, ça arrive. Il vit seul, sans avoir la vocation monastique, mais il vit seul, alors il boit. Et vous savez que quand on prend un peu trop d'alcool, ça réagit sur les organes de la mémoire et de l'imagination. Alors il peut y avoir un affaiblissement de la mémoire et de l'imagination. Et à ce moment-là, l'exercice de l'intelligence commence à diminuer. Mais l'intelligence comme telle ne vieillit pas. Et la boulessis comme telle ne vieillit pas. Mais l'exercice de l'intelligence ne peut pas se passer d'image. Et l'image, ça, c'est lié à l'imagination, c'est lié à la mémoire, c'est lié à l'affectivité passionnelle. Et donc, l'exercice de l'intelligence peut diminuer. Mais l'intelligence comme qualité ne diminue pas. Il faut bien comprendre ça. Vous voyez, on peut supprimer chez quelqu'un l'exercice de son intelligence par une petite piqûre. Ça ne veut pas dire qu'on atteint son intelligence. On atteint l'exercice de son intelligence. On ne touche pas son intelligence. C'est la même chose pour la volonté. peut faire qu'en droguant quelqu'un, il n'ait plus de volonté. En lui faisant une petite piqûre, il n'ait plus de volonté. Et la petite piqûre ira assez loin. Au bout d'un certain temps, il s'endormira et il ne se réveillera jamais. Oui, c'est comme ça que vous pouvez hâter l'heure de la mort, par le point de vue du corps, pas par le point de vue de l'âme. On domine le corps. Et on peut arriver à faire que, de fait, le corps étouffe l'âme dans l'ordre de l'exercice. C'est très important, vous voyez, cette petite distinction, l'exercice et la spécification. L'exercice, c'est le conditionnement, et la spécification, c'est justement ce qui détermine l'objet. L'objet détermine. Primus cadit in intellectus, ens. Voilà ce qui détermine l'intelligence. Or, l'ens ne diminue jamais, ne vieillit pas. Et l'intelligence est déterminée par ens. Par ce qui est. Tandis que l'exercice de l'intelligence, c'est la dialectique. Et c'est vrai que l'exercice de l'intelligence est commandé par l'affirmation et la négation. Et toute la dialectique, c'est l'affirmation et la négation. C'est pas ens. C'est affirmation et négation. Voilà ce qui détermine l'exercice au sens propre. Et l'exercice de l'intelligence peut donc progresser par l'affirmation et la négation. Donc, comprenons que l'intelligence est capable progressivement de se qualifier elle-même, de s'ennoblir elle-même, d'acquérir des habitus. Alors, il y a une question extrêmement importante qui se pose ici pour tous les éducateurs. C'est la grande question de l'éducateur. Comment acquérir des habitus? Puisque c'est ça qui qualifie l'intelligence. Comment acquérir des habitus du côté volonté? Puisque c'est cela qui qualifie une personne. Si, dans votre éducation, vous avez de mauvais éducateurs, ne vous font jamais acquérir des habitus, vous resterez toute votre vie une navette. Tandis que si vous acquérez des habitus, alors vous avez une détermination. Et c'est ça le propre d'une personne. Quelqu'un qui a des qualités. Alors vous voyez, c'est important de se poser la question. Éducation, c'est la grande question. L'éducateur, c'est un homme qui doit être attentif à la qualité, pas à la quantité. Il y a des éducateurs qui ne regardent que les examens. C'est pas des vrais éducateurs, ça. Les examens, c'est la quantité, c'est l'exercice. Il y a des bêtes à examen. Un véritable éducateur essaie de qualifier l'intelligence, par l'acquisition des habitus. Et de qualifier la volonté par l'acquisition des habitus. L'intelligence se qualifie par les habitus philosophiques, les habitus mathématiques, les habitus d'art. À côté des habitus, il y a ce qu'on appellera des disciplines. Les disciplines, ce n'est pas des habitus. C'est des dispositions. Ce sont des méthodes. On acquiert des méthodes en rhétorique. Pour faire une bonne dissertation, il faut acquérir une certaine discipline, une certaine méthode. Si on a une méthode, on sait faire une dissertation. Même si on n'est pas très intelligent, ça n'a pas d'importance. Surtout si le professeur n'est pas très intelligent. très peu de professeurs qui voient la différence entre la virtuosité et l'habitus, au plan philosophique. En mathématiques, beaucoup plus. Parce qu'il y a le résultat. Et qu'en philosophie, il n'y a pas le résultat. Alors vous pouvez passer en par en dessous. C'est très important la différence entre la discipline et l'habitus. Les disciplines ne vous donnent pas d'habitus, des méthodes. Mais la logique vous donne des méthodes de travail. C'est très important au point de vue de l'efficacité, mais pas au point de vue de la noblesse. Les habitus ennoblissent. C'est la noblesse de l'intelligence. Alors il faut toujours se poser la question, quand vous êtes en face de tel ou tel domaine scientifique, est-ce que ce domaine va permettre d'acquérir un habitus ou simplement une discipline? Y a-t-il un habitus d'histoire? Je vous laisse conclure. Y a-t-il un habitus d'histoire ou c'est simplement une discipline? Simplement des méthodes. L'historien, c'est un homme de méthode. Y a-t-il un habitus d'archéologue ou simplement une discipline? Il faut se poser ces questions-là. Si on ne se les pose pas, on est un mauvais éducateur et un mauvais conseiller. Quand quelqu'un vous demande conseil de savoir faut-il faire telle ou telle matière, posez-vous la question, y a-t-il là acquisition d'un habitus ou simplement d'une discipline? C'est pour ça que c'est important, vous voyez, la qualité, et de comprendre ce que c'est que l'habitus, qui vient perfectionner le pouvoir, nos deux grands pouvoirs spirituels, qui donnent vraiment à la personne humaine sa dignité. Quelqu'un qui a des habitus, il peut communiquer quelque chose. Quelqu'un, il est source. L'habitus permet d'être source. Puisque c'est une survie, l'habitus. C'est une survie de l'intelligence et de la volonté. Vous voyez, ça vient qualifier l'intelligence, ça vient qualifier la volonté. C'est pour ça que je dis que c'est une survie, une capacité d'aller plus loin. C'est le surhomme. C'est le suresprit. Il y a quelque chose de plus. Et ça sent tout de suite, ça. Un apiculteur, est-ce qu'il acquiert un habitus ou une disposition? Un médecin qui est un artiste ou un médecin qui est un savant? Est-ce que la science biologique est un habitus ou une disposition ou une discipline? Est-ce que l'éducateur, est-ce que c'est un habitus ou une discipline? Il faut se poser ces questions-là. Je ne vous les dis pas, parce que comme ça, vous cherchez. Et vous les découvrez vous-même. Mais il faut se poser cette question. Dans toutes ces études, il faut se poser tout le temps ces questions-là. Vous voyez, il y a là un partage extrêmement intéressant, et c'est le partage de l'habitus et de la disposition. La disposition ex parte materia, c'est du côté de la matière. L'habitude, c'est du côté des principes. Là où il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'habitus. Là où il n'y a qu'un devenir, sans atteindre la nature, il n'y a pas d'habitus. Et alors, au point de vue art, c'est très important. L'art véritable est un habitus. L'art culinaire est-il un habitus? Vous allez me dire, ex parte materia, puisque je fais cuire des choux-fleurs. Oui, mais C'est pas la cuisson qui fait qui fait le cuisinier. C'est tout autre chose. C'est les ingrédients qu'il met dedans. C'est l'harmonie. S'il met des légumes qui sont contradictoires l'un avec l'autre, ça ne fait pas une bonne cuisson. Ça ne fait pas un bon repas. C'est pas arrivé, ça. C'est contradictoire. Celui qui a du goût dira tout ça, non. Alors, songez à ça, parce que ça, je crois que c'est très important de voir dans nos pouvoirs, dans nos facultés, qu'est-ce qui vient déterminer? Est-ce que l'irascible et le concupiscible peuvent être ennoblis? Oui, par la vertu de tempérance. Et la vertu de force. La vertu de force ennoblit l'irascible et permet à l'irascible d'avoir une certaine dignité. Et celui qui se met en colère tout le temps manque de dignité. Ça, on le sait. Il perd toute son autorité. Celui qui ne se met jamais en colère perd aussi son autorité. Celui qui est intempérant perd sa dignité d'homme. Parce qu'on sait très bien comment on pourra le posséder. Vous l'invitez à table et vous lui versez du bon vin. À la fin du repas, vous pouvez tout lui demander. Ce qu'on avait dit quand De Gaulle avait été à Moscou. Il n'avait pris que de l'eau. Pas un pouce d'alcool. Je le sais par celui qui était l'interprète, qui avait accompagné De Gaulle. Pas pris une goutte d'alcool. Alors tous les Russes se tapaient, il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle. Pour garder sa dignité. S'il savait que un peu trop d'alcool ou un tout petit peu d'alcool le mettait dans un état de glissade et de dégringolade. Mais il valait mieux arrêter dès le point de départ, prendre que de l'eau. Ma sœur, l'eau. Et quelquefois, on a besoin d'avoir la sœur, l'eau, pour aider qu'on ne glisse pas. On ne dit pas mon frère, l'alcool. Non, non. Tandis que ma sœur l'eau, oui, ça, oui. Et surtout quand elle est fraîche. Vous voyez? Parce que quand elle est déjà un peu vieille, ça fait ma sœur la vieille fille, l'eau un peu contaminée, ça ne va pas. Tandis que l'eau pure, on voit très bien ce que ça veut dire. À côté de ces qualités qui sont des pouvoirs, vous avez alors les qualités sensibles et les passions. Ça, c'est facile à comprendre, puisque c'est la connaissance immédiate, les sensibles propres. Ce que je saisis directement à travers mes sensations, par rapport à l'homme, par rapport à la couleur, par rapport à la lumière, par rapport à la chaleur. C'est facile, hein, tous les sensibles propres. Et puis les passions. Les passions sont des qualités. Lisez, pour bien comprendre ce que je vous dis là, un texte très intéressant à lire dans Sénèque, le De Ira. Quand vous avez 5 minutes à vous divertir, lisez le De Ira, de la colère de Sénèque. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est pas étonnant, les stoïciens ont horreur des passions, donc ils les écrivent très bien. Alors, le De Ira de Sénèque est quelque chose de très beau. Et enfin, vous avez la dernière qualité, ce qu'on appelle la figura. La forme expressive. ce que représente la physionomie d'un être, sa figure. C'est une qualité qui se prend du côté de la matière. C'est pas une disposition, hein. C'est pas la même chose que la disposition, la figura. Elle implique des dispositions. Mais la figura se ramène à l'unité de la personne, à l'unité de l'animal. Un chien, il a une gueule, c'est sa figura. Faut pas dire pour l'homme, vous voyez. C'est vrai, il a une gueule. On a tous rencontré dans sa vie des taureaux extraordinairement expressifs. On en a rencontré aussi complètement abattus. Bon pour l'abattoir. La figura a disparu. La figura d'un tout petit enfant. La figura d'un vieillard. La figura de l'homme en pleine lutte. La figura de quelqu'un qui est en colère. La figura de quelqu'un qui est en adoration. C'est curieux, hein, c'est l'expression. C'est l'expression. C'est pour ça que je dis la forme expressive. C'est l'expression de quelqu'un. Vous voyez comme c'est proche de la beauté ou de la laideur. C'est très proche. Je crois que l'expression, c'est la beauté de quelqu'un. Ça s'exprime à travers le regard. Au-delà, vous voyez, de la physionomie. C'est très proche, hein. Parce que, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la beauté? Si la qualité, c'est la forme, et que la beauté, c'est la forme, la beauté, c'est la splendeur de la forme. Donc la beauté, c'est la splendeur de la qualité. C'est vrai que c'est la beauté, c'est la splendeur de la qualité. Donc c'est pas seulement la figura, c'est la splendeur de la figura. C'est une super expression. Il y a l'expression, il y a une super expression. Alors c'est là où je crois qu'on peut saisir ce que c'est que la beauté. Quand j'essaie de comprendre que la figura, donc la forme expressive, je crois qu'il faut dire la forme expressive. La physionomie, si vous aimez. La physionomie d'un paysage, la physionomie d'une tête, d'une personne. La manière dont cette personne marche. La physionomie. C'est la chose très expressive. Bon, dans la mesure où cette forme expressive est rattachée à la nature, est rattachée à l'ousia, à l'individu, alors vous avez cette super expression qui, je crois, est la beauté. La beauté d'un être, c'est son expression intériorisée, ramenée à la nature, ramenée à l'individu dans l'unité. Et la forme expressive, puisqu'elle se prend du côté de la matière et de la quantité, peut impliquer quelquefois une très grande diversité, qui nuit à sa beauté. Quand elle se ramène à son principe, à la nature, à l'individu, alors j'ai ce qu'on appelle la beauté, qui est un habitus entitatif. Pour saint Thomas, c'est délicat. Vous voyez ? C'est un habitus, donc c'est une qualité. C'est une qualité enracinée dans l'individu. C'est une qualité d'originalité. La beauté, c'est en dehors du banal. En dehors de la série, Et quelqu'un qui a une gueule, ça dit bien la chose. C'est quelque chose qui est expressif. Oui, c'est expressif. Mais c'est une expression ramenée à l'individu. C'est ça l'habitus. Mais c'est un habitus très particulier puisqu'il se prend du côté de la matière. Donc, c'est presque plus qu'une disposition d'un habitus. La preuve, c'est que la beauté peut disparaître. Vous avez rencontré quelquefois des petits enfants. Le cardinal Journet était très sensible aux petites filles. Il était en admiration. Quand il voyait une petite fille de 4 ans, 5 ans, il était presque en extase. C'était très joli de voir ça. C'est vrai. Puis vous la revoyez 10 ans après. Oh! Toute la beauté a disparu. C'est quelque chose, comment? C'est effrayant. C'est la feuille qui est tombée, vous savez, fanée. Un bouquet de fleurs magnifique, puis le lendemain, plus rien. Voilà la beauté. Voilà la figure. Évidemment, il y a une certaine beauté de fleurs qui dégringolent. Oui, si vous voulez. Mais c'est pas tout à fait le même éclat. C'est pas le même éclat. C'est une chute. Alors, je dirais que c'est la physionomie. C'est pas la beauté. Si, vous voyez ça, les personnages, quand elles tombent par terre et qu'elles pleurent. Vous avez vu des personnages pleurer. Quand il n'y a plus de soleil. Alors, elles retombent. Du reste, les fleurs, c'est comme ça, ça retombe. Tandis que la fleur conquérante, elle conquiert, elle a quelque chose de... Oui, il y a une idée de victoire dans la beauté. La victoire sur la matière, sur l'indétermination, sur la série, l'anonymat, le « on ». Tout ça, c'est fadasse. Et c'est pas la beauté. La beauté a un éclat. C'est pour ça que c'est la victoire dans la forme expressive. L'habitus de beauté, l'habitus entitatif, la beauté, qui est l'éclat. Et c'est pour ça que très souvent, c'est dans le regard, plus que dans l'harmonie. Vous voyez, je prends, vous allez tout de suite comprendre. Il y a des gens qui sont extrêmement liés au nombre d'or, point de vue architecture, par exemple. Il suffit que pour eux, soit harmonieux. La beauté n'est pas seulement l'harmonie. Il y a dans la beauté quelque chose d'au-delà de l'harmonie, qui est un éclat dans l'harmonie. Et ça, on le découvre ou on ne le découvre pas. Le monde, le nombre d'or peut vous donner l'harmonie, mais ne vous donne pas l'éclat. Et la beauté, c'est cet éclat. C'est ce petit quelque chose. Oui, ce petit quelque chose, j'allais dire, au-delà de l'harmonie, qui est une super expression. Une expression qui a une qualité particulière et qui donc est ultime, oui.
Est-ce qu'on peut dire aussi que quelque chose est beau, qui est en fait, qui n'est pas beau, mais qui a quelque chose de...
C'est comme ça qu'on parle de la beauté du démon. Baudelaire. Je l'ai jamais vu, là, je ne veux pas le dire. Mais il doit avoir une sacrée gueule. Hein. Alors là, ça doit être quelque chose. Et qui vous donne une espèce de frousse. C'est vrai, il peut avoir ça. Alors à ce moment-là, c'est une beauté. C'est ce que Rilke dit. Il faut voir la manière dont les artistes définissent la beauté. Rilke dit qu'il y a toujours dans la beauté quelque chose de terrifiant. Mais il y a aussi dans la beauté quelque chose de séduisant. Il y a comme deux pôles dans la beauté. La terreur et la séduction. Mais la terreur peut aussi vous séduire. Ça, c'est comme quelque chose d'extrême. C'est pour ça que c'est très difficile. La figura fait partie de la beauté, mais n'est pas la beauté. Parce que tout le monde a une figura. Tout le monde a une physionomie, une forme expressive. Et la beauté, je dirais, moi, que c'est l'éclat dans cette expression. C'est la splendeur dans cette expression. Donc, c'est l'idée de victoire de l'expression qui l'emporte. Alors qu'il emporte du côté de l'harmonie, qu'il emporte du côté de la désagrégation, de la brisure. Il y a des brisures qui sont belles. Et c'est une brisure. Et au contraire, des harmonies belles, c'est encore de l'harmonie, mais c'est beau. Alors, c'est du côté de la figura, du côté de la disposition, avec quelque chose en plus. Et c'est de l'ordre qualitatif. De sorte que je dirais,